Chapitre 7. Une petite porte. Ce fut par Flos qui, tout en n'ayant pas mauvais cœur, était cependant une petite potinière. Ce fut par Flos que l'institutrice apprit qu'on l'avait, au salon, la veille, après son inconcevable sortie, pesée, jugée et condamnée comme absolument impossible. Elle admit la sentence sans aucune difficulté et ne fit pas le moindre effort pour entrer en grâce. Son pessimisme et sa défiance allaient croissant. Puisque Pierre Coum l'avait trahi, il y avait de la trahison partout, de l'hypocrisie, des manigances sournoises. Le clergyman était, après tout, bien capable d'avoir caché la bague dans le fauteuil. Elle ne se souvenait plus très bien des mots qu'elle avait prononcés dans son bizarre accès. Avait-elle traité ces Anglais de sauvages, de cannibales, de païens ? Ah oui, des sauvages païens seuls pouvaient croire à la divinité féroce qui tuait d'innocentes jeunes mères et faisait orphelins les bébés dans leur berceau. Ces gens-là priaient ce Dieu-là tous les dimanches. Thérèse ne raisonnait plus, elle se laissait aller à sa sombre colère intérieure, elle englobait tout l'entourage dans sa rancune rongeante. Un incendie couvait en elle et c'était à travers cette âcre fumée qu'elle voyait tout ce qui était anglais, les lois, les mœurs, le flegme, l'arrogance et les fausses vertus de ces insulaires. Son bon sens, qui lui revenait par brèves lueurs, lui conseillait de s'en aller au plus vite avant d'autres éclats. Son orgueil, au contraire, la retenait de fuir sous la réprobation. « Ils me supporteront jusqu'au bout », pensait-elle, comme si c'eût été une vengeance. Elle tint bon et, à la fin de septembre, elle ramena à Londres ses trois élèves qu'une financière gouvernaise attendait pour faire d'elles des jeunes Anglaises accomplies. La première visite de Thérèse fut pour son amie Jeanne Black que, dans son cœur reconnaissant, elle appelait toujours Galimard. « Vous revoilà ? Bon, et vous n'avez pas mauvaise mine du tout !» fit cordialement l'aimable Française, peu sentimentale mais fidèle, suivant la tradition de sa race. « Et ça a bien marché, ce séjour en Écosse ?»« Non, assez mal, répondit Thérèse. Je suis devenue impossible. Il me faudra trouver une occupation dans un trou perdu où je ne verrai personne. »« Je comprends, fit Jeanne, qui d'ailleurs comprenait toujours. C'est une phase. À vrai dire, je m'y attendais un peu. » Le caractère se gâte quand on a un chagrin de ce genre, un chagrin qui n'est pas... Là, un bon coup bien franc, une mort, tenez. Dimanche, à Vêpres, notre curé de Saint-Sauveur nous a prêché sur un texte qui m'a fait penser à vous. Qu'il vaut mieux tomber aux mains de Dieu qu'aux mains des hommes. Ah, je vous jure que dans ces vieux évangiles, il y a des choses qui plaquent parfaitement encore aujourd'hui. Ce passage doit être plutôt dans les psaumes, murmura Thérèse, par habitude protestante de chercher chapitre et verset. C'est bien possible, ça ne l'empêche pas d'être vrai. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Voulez-vous m'aider dans mon institut? Je vous mettrai en devanture avec vos cheveux défaits, tournant le dos, cela va sans dire. Je placerai à côté une tête en cire à peu près chauve et au-dessus un écriteau « Avant, après la lotion Galimard ». « Je lance en ce moment une lotion merveilleuse. Voulez-vous ? » Thérèse se mit à rire. « Je ne crois pas que j'ai la vocation, dit-elle. Je n'ai pas non plus la vocation d'institutrice, puisque j'en suis à mon troisième échec. Vous me voyez très embarrassée. Inutile de rentrer dans mon petit pays, où il y a plus de maîtresses d'école que de classes à repourvoir. Mais si vous saviez, Jeanne, ce que je déteste à présent l'Angleterre... « Cela est déraisonnable. Les Anglais ont du bon, » objecta Madame Black. « Monsieur Black est un excellent mari, pas amusant du tout, mais sérieux. » Thérèse eut une petite crispation de mémoire. N'avait-elle pas écrit elle-même, pauvre folle, à cette sage Galimard « Je suis mariée, je suis heureuse, je vous en souhaite autant. »« Je vais être très occupée, » poursuivit Jeanne. Toutes ces enragées d'Anglaises rentrent de la campagne avec des mines couperosées, brûlées, gonflées, des rides au front, des pattes d'oie, pour avoir trop sauté en l'air après les balles de tennis. Il va falloir refaire des beautés avec ça. Le croquet, ça se comprend encore si on a un joli bras et un joli pied. Avez-vous fait du tennis en Écosse ? Oh, si peu, je ne serai jamais championne de rien du tout, allez !»« Vous avez de beaux cheveux, de belles dents, de jolies mains, ça fait déjà un ensemble, mais vous ne mettez rien en valeur !» déclara Jeanne avec regret. Le même jour, très peu réconfortée, Thérèse descendait Bond Street vers Piccadilly, quand elle se rencontra, si près qu'elles se frôlèrent, avec Madame Naïmol, qu'accompagnaient ses deux filles aînées. Un quart de seconde d'hésitation les fit presque s'arrêter, presque se saluer. Mistress Naïmol sourit, hautaine, puis elles passèrent chacune de leur côté en se croisant. Julia, plus laide que jamais, avait eu un ricanement perceptible. « Ah, par exemple, s'il va falloir encore que je rencontre ces gens dans la rue !» protestait Thérèse, dont le cœur battait. « Je sais bien que je suis parfaitement idiote. Mais c'est égal, Londres est si grand, on devrait n'y jamais voir un visage de connaissance. C'est Naïmol. Tout mon malheur a commencé là. » Le désir de tourner le dos à tant d'affreuses souvenances devenait une obsession. Mais où aller? Continuer son tour du monde? S'embarquer pour les États-Unis? Ce fut encore Jeanne Black qui orienta Thérèse et lui ouvrit une petite porte d'avenir. Thérèse avait essayé d'un nouveau quartier, le Brompton Road, modeste et convenable, une ruche dont toutes les alvéoles sont louées à des travailleurs de conditions moyennes, commis de la cité, demoiselles de magasin, gardes malades. Comme elle rentrait un soir après sa promenade, elle trouva une petite lettre qui contenait une coupure de journal et la carte de Jeanne Black avec ces mots « Voyez si l'annonce ci incluse pourrait faire votre affaire. Bon souhait !» Sans grand empressement, Thérèse lut l'annonce qui avait été découpée dans le Morning Post. Une maison française d'édition cherche personne capable de bien traduire d'anglais en français et de français en anglais des guides de voyage. Connaissance des termes architecturaux est requise. Écrire sous chiffres, etc. Pourquoi ne pas se présenter? On peut apprendre à connaître les termes architecturaux. Thérèse écrivit immédiatement. Cette occupation retirée dans un coin, sans rapport avec des gens sinon par correspondance, n'était-ce pas exactement ce qu'elle avait souhaité? Une petite flamme d'espoir lui réchauffa le cœur, s'éteignit vite déjà le lendemain. Sans référence, sans connaissance spéciale, sans aucune expérience des éditeurs, Thérèse pressentait que son offre allait être étouffée sous des centaines d'autres mieux recommandées. Une semaine plus tard, dans une enveloppe assez lourde, elle recevait quatre feuillets imprimés, deux textes anglais, deux textes français et deux listes, l'une anglaise et l'autre française, de termes d'architecture. Une sorte de lettre imprimée également en forme de circulaire invitait la postulante à traduire ses divers morceaux et l'informait en même temps que la maison d'édition entreprenait d'offrir à deux publics des guides des cathédrales de France et d'Angleterre dignes de toute confiance au point de vue historique et architectural. Les hommes les plus compétents des deux côtés de la Manche avaient établi des textes qui requéraient maintenant une bonne traduction. « Pour que ces messieurs aient pris la peine de m'expliquer tout ça, » pensa Thérèse, « il faut que ma lettre ait présenté quelque intérêt. » Son dictionnaire se trouva tout à fait insuffisant. Elle s'arma de courage, pénétra dans le British Museum, causa avec un bibliothécaire obligeant et courtois, qui eut même l'air de s'intéresser à elle et qui lui indiqua la filière à suivre pour obtenir un pupitre dans la salle de lecture, et pour s'y faire entourer d'un rempart de dictionnaires et d'ouvrages spéciaux. La traduction d'un texte clair n'était pas difficile après tout. Même pour la rédaction en anglais, Thérèse était aidée par l'article anglais qu'elle venait de mettre en français. Au bout de 3 jours, le travail fut terminé. Thérèse poussa l'audace jusqu'à prier le bibliothécaire de bien vouloir y jeter les yeux, ce qu'il fit négligemment avant de prononcer un satisfecit. Ce n'est pas pour rien que Thérèse avait été maîtresse d'école. Elle avait gardé l'habitude d'aimer à exposer à des ignorants son savoir, même de fraîche date. Elle avait ajouté, dans les marges de sa traduction, de petites notes explicatives des termes architecturaux à l'intention du voyageur profane et même quelques citations de Ruskin sur la Vierge dorée d'Amiens, par exemple. « Nous avons noté avec satisfaction, lui écrivirent les éditeurs français, que vous avez apporté à nos guides un élément d'instruction et de littérature auquel d'autres traducteurs n'ont pas songé. » C'était donc cette petite idée de rien du tout qui avait décroché la timbale. Thérèse était choisie, son hiver était assuré, elle courut le dire à Jeanne. « Les conditions sont même meilleures que je n'espérais. On me paie 200 francs par cathédrale. Je ferai une cathédrale en 15 jours sans me rien casser. Et c'est encore à vous, Jeanne de Bon Secours, que je dois cette magnifique aubaine. » « Ne me remerciez pas trop, répondit l'exacte calculatrice qui aimait à tout mettre au point. Quand je vous ai laissé quitter la pension Stephen pour un meublé du Strand, je ne vous ai pas assez averti des dangers, pas assez retenu. J'en aurai du regret encore longtemps et, ma foi, si je pouvais vous aider un peu à repartir pour une bonne étape, ça ne serait qu'un petit emplâtre sur ma conscience. » « Comme vous êtes poétique, s'écria Thérèse en lui sautant au cou. Une bonne chance ne vient jamais seule, assure-t-on. L'ami que Thérèse avait regretté de ne pas trouver à Londres quand elle y était débarquée l'année précédente venait de rentrer chez elle après de longues pérégrinations en Italie, à Gênes, à Livourne, puis à Salonique et à Constantinople avec ses élèves, d'opulentes jeunes israélites qui visitaient les ramifications innombrables de leur parenté en Europe et dans le Proche-Orient. Ce fut avec un vif plaisir que les deux amis se retrouvèrent et que Thérèse accepta une proposition qu'elle n'eût guère su d'ailleurs comment refuser. « Nous avons une chambre vacante dans notre maison, dit l'ami. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'installer chez nous? Tu serais confortable et parfaitement libre pour travailler. En général, nous prenons comme pensionnaire une étudiante de l'école d'art du musée de South Kensington à cause de la proximité. » « Ce serait charmant pour toi et moi de vivre l'une près de l'autre, tu ne trouves pas ?» Thérèse réfléchit un peu. Allait-elle s'exposer à une intimité dangereuse par les confidences qu'une minute de faiblesse ou de détresse pourrait faire jaillir d'elle ? Mais non, elle n'avait qu'à suivre le conseil de Jeanne, et toutes les fois que les pensées errantes retournaient à ce vieux cottage gris dans les fleurs, se dire « Je l'ai rêvé !» Après tout, le rêve ne s'effaçait-il pas un peu ? Oserait-il franchir le seuil de cette nouvelle petite porte ?